Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 6ème épisode de Pré-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et comme vous l'aurez deviné, dans ce podcast on parle d'e-sport, de l'e-sport bleu-blanc-rouge qui commence dans l'Hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pré-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Side, joueur de Warcraft 3 depuis plus de 10 ans. C'est un profil bien différent des précédents invités et vous allez vite comprendre pourquoi. Différence entre l'e-sport d'hier et d'aujourd'hui, meilleurs souvenirs et passion du jeu, autant de sujets que nous allons aborder. Allons-y, il nous attend. Salut Side, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien, merci et toi ?
Bah écoute, nickel. On est dans le 6ème épisode, ouais, déjà de Pré-Shot. On a déjà parlé dans ce podcast de CSGO, de Brawl Stars, de Hearthstone. Mais aujourd'hui, on parlait d'un nouveau jeu. Enfin, nouveau. Vous comprendrez que c'est pas forcément un nouveau jeu. Ça s'appelle Warcraft 3. Mais avant de parler de tout ça, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi pour te situer. T'as quel âge ?
Alors, j'ai 30 ans.
Ce que je disais, un ancien jeu, forcément, il y a des anciens joueurs. Tu vis où du coup ?
J'habite à Paris.
Ouais, donc toi, niveau connexion internet, ça a dû aller pendant le confinement, je suppose.
Ouais, heureusement.
Je te dis ça parce que les deux derniers interviewés que j'ai eus, eux habitaient à la campagne et certains avaient des petits problèmes d'internet de temps en temps, donc c'était pas forcément pratique en cette période.
Ouais, clairement.
Du coup, toi, tu joues à Warcraft 3, mais je suppose que tu as une activité à côté.
Ouais, tout à fait. Donc, à côté de Warcraft 3, où je joue sur mon temps libre, je suis développeur web à plein temps.
Ok, donc tu développes des sites web, c'est ça ?
Ouais, grosso modo, je travaille pour une compagnie de médias et je travaille sur un site intranet qui est à peu près la même chose.
Ouais, c'est le même principe. Et ça t'a jamais tenté de développer des jeux vidéo, justement, vu que tu joues tout le temps ?
Alors, pas vraiment, puisque déjà, c'est quand même assez différent par rapport au développement web. C'est d'autres technologies, même si ça reste du développement, donc ça se rejoint. Mais aussi parce que le secteur du jeu vidéo me semble pas super attirant pour un développeur.
Ok, très bien. Bah écoute, on va parler du coup de Warcraft 3, mais écoute, avant qu'on commence de parler vraiment du jeu et de rentrer dans les détails, j'aimerais que tu essayes de me l'expliquer pour les joueurs qui forcément n'ont pas forcément entendu parler de ce style de jeu.
D'accord. Alors Warcraft 3, simplement, c'est un jeu de stratégie en temps réel. C'est-à-dire que tu choisis entre 4 factions, donc mort-vivant, humain, orc et elf. Chaque faction donc doit récolter des ressources, de l'or et du bois. Ça te permet de construire des bâtiments, des unités, des héros. Et le but, c'est simplement de massacrer ton adversaire.
Voilà, tout simplement, détruire sa base. Quoi.
C'est ça.
C'est un peu comme Age of Empires pour ceux qui ont peut-être connu.
Exactement.
C'est un peu le même principe. Et ça demande quoi comme compétence particulière, ce genre de jeu ?
Ça demande un peu de réflexion, quand même pas mal de rapidité, que ce soit la souris ou au clavier. Et pas mal d'investissement aussi.
Un investissement en temps ?
Ouais, un investissement en temps, surtout que, comme tu le disais, c'est un jeu qui est assez vieux. Donc, les joueurs qui y jouent, pour la plupart, ont quand même une sacrée expérience sur le jeu. Et donc, si quelqu'un veut s'investir dans le jeu, bah, il faut rattraper ce retard et du coup, ça demande quand même pas mal d'investissement.
Pour donner des détails aux gens, faut rappeler qu'il est sorti quand même en juillet 2002. Bon, voilà, ça fait 18 ans déjà.
Ça fait un bail.
Et là, du coup, en début d'année, ils ont sorti une version remasterisée qui s'appelle Reforged. C'est une version que t'attendais ?
Alors, c'est une version que j'attendais, ouais. J'étais vraiment hype par l'annonce de Reforged. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'espérait, mais en tout cas, oui, je l'attendais vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé mal ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien client qu'on utilisait pour jouer à Warcraft 3, du coup, ils l'ont fermé. Et tout se passe sur ce nouveau client qui est Reforged. Le problème, c'est qu'il est pas vraiment, il manque des fonctionnalités par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, les fonctionnalités qu'on avait depuis 18 ans, donc par exemple un leader ou des profils, des clans, ce genre de choses, ces choses-là n'existent plus sur le client Reforged parce qu'elles n'ont pas été encore développées. A priori, elles vont l'être, mais la sortie du jeu, ça fait déjà un peu plus de 3 mois et on n'a toujours rien vu, donc c'est assez inquiétant.
Ah, ça la fout mal, hein. C'est pour ça qu'il y a eu toute une grogne de la communauté, parce que c'est vrai que sortir une version avec moins d'options que la version qui datait de 2002, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quoi.
Ouais, clairement.
Et à part ça, est-ce que ça a apporté des nouvelles choses, des nouveaux joueurs, des nouveaux graphismes, des trucs positifs pour le coup ?
Alors, ça a apporté plusieurs choses, ouais, clairement. Donc, il y a eu des nouveaux graphismes qui sont pas forcément à la hauteur de ce que les gens attendaient non plus, parce que, en fait, certes, ça peut être, les modèles en fait sont plus définis, sont plus beaux. Donc, d'un
Ouais.
point de vue individuel, chaque modèle sera plus beau, mais en termes de visibilité dans l'action, ça reste un jeu de stratégie, donc tout se passe assez rapidement. C'est fouillis, c'est moins clair, donc on perd en visibilité, ce qui est forcément pas une bonne chose pour le jeu. À côté de ça, il y a eu effectivement pas mal de nouveaux joueurs, mais en fait, enfin, personnellement, je stream sur Twitch, et donc j'ai vu beaucoup de nouveaux joueurs venir poser pas mal de questions, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu sur le jeu, donc pas de ladder, il y avait des problèmes de lag, etc. Les menus pas super interactifs, bah je me rends bien compte qu'au final, les gens qui restent, pour la grande majorité, c'était les gens qui étaient là avant Reforge, malheureusement.
Ouais, donc c'est un petit peu échoué dans son objectif d'acquisition de nouveaux joueurs.
C'est ça.
Ok. Et avant cette version Reforge qui est sortie du coup bah, au début de l'année, depuis 2002, je suppose qu'il y a eu une période où ça s'est un petit peu décanté au terme du nombre de joueurs, etc. Mais est-ce que Blizzard continue à mettre à jour régulièrement son jeu, s'en occuper, faire des événements, ou est-ce qu'il y a eu une grande période un peu vide?
Alors ouais, tout à fait. Il y a une, on pourrait dire l'âge d'or de Warcraft 3. Il est sorti en 2002. Il y a eu la première expansion sur laquelle on joue Frozen Throne en 2003, il me semble. Et entre 2003 et 2009, 2010, même peut-être ouais, 2010, ça a été très actif. Il y avait beaucoup beaucoup de tournois. Ensuite, en 2010, il y a Starcraft 2 qui est sorti, donc un autre jeu de stratégie en temps réel. Et là, la plupart des gens sont, enfin pas tous, mais quand même une grande partie des gens, des joueurs, ont basculé sur StarCraft 2. Et les développements sur Warcraft 3 ont aussi commencé à ralentir, voire stopper. Et je pense qu'entre 2011 et je dirais 2018, on n'a plus vu, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ouais, dans cette période, il n'y a plus de nouveaux patchs de Blizzard. Il y avait encore des tournois, notamment en Chine, là où vraiment la scène a survécu, parce que le jeu est très très populaire là-bas, même maintenant. Mais au niveau de développement, ça, c'est vrai que ça a un peu ralenti pendant cette période 2011 à 2018.
Et toi, War 3, t'avais commencé en 2002 ou un peu après?
Moi, j'ai commencé en 2005-2006, il me semble. Je regardais mon grand frère y jouer et du coup, j'ai pris aussi.
Là, tu as emboîté le pas. Lui, il
C'est
jouait
ça.
en compétition déjà ou pas?
Alors, il faisait quelques compétitions, mais rien de très sérieux. Plus en mode casuel.
C'est toi le petit frère qui a un peu copié et qui finalement est devenu bien meilleur que lui et à faire des tournois, c'est
Exactement,
ça?
c'est ça.
Ça, il l'a pas trop mal pris?
Non, ça va, ça va.
Et quand t'as commencé le jeu, directement t'as été fort ou ça a pris du temps avant que tu trouves un petit niveau?
Oh, je pense que ça a pris un peu de temps quand même. Après, à l'époque, il y avait quand même pas mal de joueurs, donc c'était difficile de se démarquer. Mais j'ai pris quand même, ouais, quand même un petit peu de temps, parce que c'était vraiment le premier. Enfin, à l'époque, je jouais surtout à Diablo 2, où il n'y avait pas vraiment les mêmes mécaniques. C'est un hack and slash, donc tu tues des monstres et tu farmes du stuff. À côté de ça, War 3, c'est quand même carrément un jeu différent. C'était vraiment le premier jeu de ce genre. Donc, quand c'est le cas que tu joues un nouveau jeu auquel t'as pas joué, ou aucun jeu qui y ressemble, ça prend un peu de temps à devenir
Ouais, pour
correct.
assimiler tout ce qui est mécanique, etc.,
Ouais.
fonctionnement du jeu, c'est vrai que vaut mieux avoir fait d'autres opus qui ressemblent un peu, c'est plus facile de faire la transition, quoi.
Tout à fait,
Et quand est-ce que tu as commencé à faire tes premières compétitions? Je suppose que les premières, c'était en ligne.
ouais, les premières c'était en ligne. Après, j'ai rapidement fait des LAN, puisqu'à l'époque il y en avait quand même beaucoup en France. Mais je pense que ouais, vers 2007, je dirais peut-être 2007, ouais.
Et alors, comment t'es tombé dedans? Est-ce que tu t'es dit, bon, vas-y, je commence à devenir pas mauvais, je vais faire des compétitions, il y a de l'e-sport, je vais faire de l'e-sport, ça va être ma carrière? Ou est-ce que bon, c'est finalement plus au fil du temps, tu t'es dit, bon, tiens, là, je suis pas mal, il y a un pote qui m'a invité. Comment ça s'est passé, tes premiers rapports à la compétition?
Alors à l'époque, il y avait sur War 3 ce qui était très populaire, et c'est peut-être plus trop le cas maintenant sur les jeux, c'était on avait des clans, et donc sur Battle.net on se rejoignait, on avait une équipe, et une autre chose populaire c'était les ligues. Donc en fait, il y avait des tournois par clan, où en gros c'était un clan contre un autre, où il y avait par exemple 4 matchs en solo, donc 1v1 contre 1v1 et 1v2. Et donc c'est surtout là-dessus que j'ai commencé. Donc avec mes potes, on jouait à ça. On faisait, enfin, J'avais, je crois que j'avais rejoint un clan un peu aléatoirement et derrière, on a commencé à former une vraie équipe et on prenait ça un peu au sérieux. Et de fil en aiguille, il y avait des tournois qui s'organisaient et j'ai simplement rejoint ça. Et quand j'ai vu que j'avais quand même un niveau un petit peu correct, j'ai commencé à en faire un peu plus.
C'était quoi ton premier déplacement en LAN? Tu t'en souviens ou pas?
Alors, ouais, ça remonte, hein. J'étais
Ah
jeune à
bah oui, ah
l'époque.
oui.
Ouais, je me
Oh, tu
souviens.
vis toujours, tu sais, ça va.
Ça va, ouais. C'est vrai. Je crois que c'était à Meudon, une LAN, une petite LAN où il y avait quand même un des meilleurs joueurs français de l'époque, Hardgamer, un elfe. Et je crois que je sais plus, je crois que j'avais fini top 2 où il n'y avait pas grand monde, honnêtement, mais c'était à l'époque des écrans cathodiques. C'était pas évident de se déplacer en LAN, mais ouais, je pense que c'était ça à Meudon, une petite LAN. Je sais même pas si j'ai gagné quelque chose. Peut-être, sûrement des composants informatiques à l'époque, c'était pas mal ça.
Ouais, c'est ça la méta. Un
Ouais,
clavier, à la limite,
c'est
c'était le
ça.
plus gros lot.
Ouais,
Et si t'avais troisième, bon, bah, tu prenais un tapis de souris, c'était déjà pas mal en vrai.
exactement, exactement.
La bonne époque. Et je suppose que deuxième, mine de rien, même si bon, tu m'as dit que t'étais pas non plus le taureau de l'année, mais mine de rien, ton premier déplacement en LAN, deuxième, tu devais être satisfait quand même, non?
Ouais, clairement, j'étais satisfait, surtout que j'avais pas trop mal joué non plus contre le favori, même si j'avais perdu, je pense assez sèchement. Mais quand bien même, c'était un assez bon signe. Après, à l'époque, je t'avoue que, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans. Pour moi, enfin, l'e-sport à l'époque était pas non plus trop médiatisé, enfin, même pas du tout médiatisé, et pas trop répandu. Donc, j'avais pas en tête de devenir pro ou quoi que ce soit. Pour moi, le but, c'était surtout de s'amuser et de, après, si je pouvais faire des performances ou jouer bien, c'est ce qui m'intéressait, mais c'était sans devenir pro.
Ouais, c'est vraiment l'activité comme ça que tu fais le week-end, tu t'entraînes la semaine après les cours,
C'est
puis c'est ta
ça.
passion, comme les gens qui vont faire du foot à niveau amateur, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Mais d'ailleurs, à l'époque, bon, tu me dis 15-16 ans, mais après, du coup, t'as dû passer ton bac, faire tes études, etc. Comment t'as concilié les deux?
Alors, à l'époque, j'étais au lycée quand j'ai commencé à voir, ouais, collège-lycée, je crois, quand j'ai commencé à voir trois à peu près dans ces eaux-là. Bah, honnêtement, je travaillais pas trop au lycée, donc j'ai quand même réussi à avoir mon bac tout en jouant. Ça allait. Après, une fois que plus tard, quand StarCraft 2 est sorti, et là j'ai commencé les études supérieures, j'ai commencé quand même à ralentir. J'ai moins joué, c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai joué un petit peu à StarCraft 2 après Warcraft 3 quand il est sorti. Je crois entre 2010 et 2012, mais ouais, les études me prenaient un peu trop de temps et j'avais pas le temps de jouer aussi sérieusement qu'avant.
Ouais, forcément, à un moment, il faut avoir des priorités. Et puis, comme tu l'as dit, c'est des jeux qui sont très exigeants parce qu'au final, bon, StarCraft 2, peut-être même encore plus, je sais pas, mais
Oui,
c'est des jeux
oui.
qui demandent tellement de connaissances de tous les matchs, de toutes les unités, de toutes les situations, de lecture, etc. Puis, en plus, après, d'exécution mécanique, hein, parce que c'est quand
Ouais.
même un des trucs les plus spectaculaires, hein, les fameuses actions par minute, les APM
Ouais.
dans les RTS. C'est quand même.
Ouais, c'est sûr.
Est-ce que du coup, tu pensais que ça pourrait évoluer comme ça, l'e-sport? Parce qu'à l'époque, comme tu me dis, bon, c'était un truc un peu secondaire, il n'y avait pas vraiment moyen d'en faire une carrière. Si, on voyait peut-être les Stefano, etc., les Todd, bon, faire des
Ouais.
choses exceptionnelles, mais comment tu vois cette évolution, toi? Est-ce que tu l'avais senti?
Je l'avais clairement pas senti. Après, à l'époque, en Corée, c'était quand même StarCraft 1 était ultra populaire et enfin, c'était quand même quelque chose de fou. Mais je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi gros au niveau mondial. Clairement, je m'y attendais pas. Je suis plutôt, enfin, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, je sais pas jusque ça où ça peut aller. Mais je trouve ça plutôt bon signe.
Et à l'époque, toi, vous en discutiez comme, est-ce que vous, avec les autres joueurs, par exemple en LAN ou n'importe quoi, n'importe quel moment, est-ce qu'il y a des moments où, tu sais, où vous faisiez un peu des plans sur la comète en vous disant, ah, imagine un jour c'est bien ça, mais on n'y croit pas.
Non, pas vraiment. On n'était pas si.
C'est des pure
Non,
innocence, quoi.
on était pure innocence et puis on était assez satisfait en fait de notre situation. Enfin, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de LAN. On gagnait pas d'argent à l'époque, enfin il y avait pas grand chose à gagner honnêtement sur War 3, enfin, en tout cas à notre niveau, au niveau pas amateur mais pas non plus professionnel, entre les deux en France on faisait des LAN, mais on avait des équipes qui nous déplaçaient, qui nous payaient les déplacements quand même, donc c'était cool pour l'époque, mais on s'attendait pas vraiment plus quoi. On était satisfait de ce qu'on avait.
Mais c'est beau, c'est beau. Et tu penses que si ça avait été 10 ans plus tard, genre aujourd'hui, t'aurais aimé être aujourd'hui dans l'e-sport actuel?
Je pense que oui. Après, c'est difficile parce que de vraiment le dire, parce que l'e-sport, il est quand même assez différent entre un jeu ou un autre. Par exemple, si on regarde Fortnite ou League of Legends, enfin, il y a quand même des sommes astronomiques comparées à ce que peut proposer War 3, qui reste un jeu assez restreint avec une communauté assez petite, de par sa complexité, mais aussi de son âge. Enfin, moi, j'aime le jeu et je le quitterai pas pour un jeu qui me rapporterait potentiellement plus d'argent, parce que ça reste mon jeu. Mais si de nos jours, si j'aurais pu être dans l'e-sport il y a 10 ans, qu'il aurait été comme il est maintenant dans War 3, j'aurais préféré, effectivement.
Ah, ça aurait pu, ça aurait pu penser être... à ce moment-là à avoir des rêves de carrière
voilà, tout à fait,
vraiment lucratifs. Quoi. Mais c'est intéressant ce que tu me dis sur la différence entre les jeux, parce que je me suis toujours posé la question, tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui vraiment excellent sur des jeux et qui, à l'échelle des joueurs e-sportifs, sont tout simplement monstrueux, même si ils jouent pas. C'est difficile, c'est vrai, de comparer des joueurs entre plusieurs joueurs, mais on peut quand même voir qu'il y a certains qui sont exceptionnels. Et je me suis toujours demandé s'il y avait quelque part un peu de frustration, tu sais, de se dire, bah moi je perce, mais pas sur le bon jeu entre guillemets.
Moi, honnêtement, je sais pas si c'est le cas pour certains joueurs. Je l'ai jamais entendu, en tout cas venant du genre de War 3. Et moi, ça a jamais été le cas, parce que c'est au final, si tu perds sur un jeu, je pense qu'il faut quand même que tu apprécies le jeu. Et voilà, si tu joues un jeu juste pour gagner de l'argent, je pense pas que ça soit la meilleure des idées. Après, bon, c'est peut-être juste mon avis.
Non, bah, tu sais que je parlais dans les podcasts précédents, et souvent c'est revenu cet argument-là de dire que bah, pour progresser sur un jeu, pour vraiment en plus tenir sur la longueur et être excellent, il y a un truc qu'il faut, hein, c'est tout simplement la passion du jeu et l'amour du jeu. Sinon, ça ne marche pas. Quoi.
Ouais, on est d'accord.
Et puis finalement, peut-être que, comme dans ta situation, vaut mieux trouver un taf qui nous plaît et puis continuer à faire ça un peu par passion à côté.
Ouais, tout à fait, exactement. C'était mon but, ça.
Bah, tu y es arrivé. Ouais. T'as vu, parce qu'actuellement, en plus, tu disputes du coup le championnat national, les ECN. Pour l'instant, t'es à 6-0 sans perdre une manche. Ça va, tranquille.
Ça va, ça se passe plutôt bien, ouais.
C'est des problèmes de santé ou quoi?
Globalement, ça a été. Le dernier match était un peu plus compliqué, forcément, puisque on joue d'abord les seeds les plus bas. Donc, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je sais pas si ça te parle.
Si, bah ça monte en puissance, quoi. Ça monte crescendo, voilà, parce que affrontes d'abord les joueurs les plus faibles, on va dire.
Ouais, entre guillemets. C'est ça. Ouais, du coup, donc là, ça devient de plus en plus compliqué, entre guillemets. Mais pour l'instant, ouais, ça se passe plutôt bien. Je suis content de ne pas avoir perdu de map. Ça prouve que je reste quand même en forme. C'est plutôt cool.
C'est carrément cool. C'est plus ton plus grand concurrent pour l'instant, celui que tu attends le plus au tournant.
C'est sûrement celui que je vais jouer en dernier, donc Krav, un autre mort-vivant, donc je joue mort-vivant aussi sur War 3. Et c'est quelqu'un que j'ai joué plusieurs fois déjà et c'est généralement assez serré. Et donc ouais, ça va être lui que je vais jouer mardi prochain.
On te souhaite de rester invincible jusqu'au bout.
Merci, je vais essayer.
Ah bah pourquoi pas. Hein. Ouais. Bon après, toujours est-il qu'une petite défaite de temps en temps, ça permet aussi de se remettre en question et de s'améliorer. Donc au final...
C'est vrai. Puis dans tous les cas, je suis qualifié pour les playoffs, donc je me fais pas trop de soucis.
C'est le plus important ?
Ouais, c'est le plus important. Même si mon but, c'est quand même de gagner les playoffs, mais sachant que je suis déjà qualifié à ces playoffs, je m'inquiète pas trop pour le dernier match de la saison.
Ouais, au pire, ça sera de l'entraînement.
Voilà, c'est ça.
En parlant d'entraînement, comment tu t'entraînes ?
Comment je m'entraîne ? Alors, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, sur Warcraft 3, on n'a pas de ladder et de matchmaking actuellement sur la plateforme Battle.net. Cependant, la communauté et un mec très très fort qui s'appelle Pad a créé un ladder non officiel qui s'appelle Warcraft 3 Champions. Et donc, c'est là-dessus que jouent tous les gens en Europe. Enfin, tous les gens en Europe. Pas tous, parce que ça reste quand même pas forcément connu de la masse de joueurs. Mais en gros, toute la scène des gens qui jouent un peu sérieusement à War 3... sont là-dessus. Et donc, moi, je m'entraîne là-dessus. Pas forcément tous les jours, parce que il y a des jours où j'ai pas spécialement envie de jouer ou parce que je suis fatigué après le taf. Mais j'essaie quand même de jouer un maximum, je dirais, entre 2 et 4 heures par jour, grosso modo, j'essaye de m'entraîner.
Bon, ça va, c'est pas un rythme effréné, mais c'est
Ouais.
quand même pas rien.
C'est quand même pas rien. Ouais. C'est pas toujours facile, parce que en plus quand je m'entraîne, enfin généralement je stream sur Twitch parce que j'aime beaucoup l'interaction avec les viewers. Et donc après le taf, stream et en plus commenter et jouer à quand même un niveau assez correct, c'est pas toujours facile, c'est assez rapidement fatigant, mais ça me plaît et j'aime bien.
Ah, c'est clair que streamer, c'est un métier à part entière. Il y a
Ouais.
beaucoup de joueurs qui disent qu'effectivement, s'ils n'étaient pas en stream, bah, ils joueraient mieux, mais bon, c'est
Ouais,
un
c'est vrai,
compromis.
ouais, c'est un compromis.
Ça t'apporte quoi, toi, de streamer?
Honnêtement, streamer, j'ai commencé, je suis revenu sur War 3 parce que j'avais arrêté un peu, ouais. J'ai arrêté en 2010 aussi pour jouer un peu à StarCraft 2 et après j'ai complètement arrêté de jouer jusqu'en 2006. Et j'étais revenu peut-être pour un mois ou deux et je suis vraiment revenu sur War 3 en 2018 et c'est là où j'ai commencé à stream. En fait, stream, ça m'a apporté la motivation de jouer déjà parce que j'aime bien jouer, mais jouer sans aucun but, c'était pas super intéressant parce que j'avais pas
Ouais.
forcément trop envie non plus de faire de compétition. Enfin, j'aime bien, mais voilà. Et en fait, stream, c'était vraiment le truc qui m'a motivé à rejouer parce que montrer aux gens de quoi je suis capable de faire et de pouvoir commenter, de pouvoir parler avec eux, interagir. J'ai trouvé ça super cool et ça m'a vraiment motivé à streamer un peu plus et à jouer un peu plus et à juste apprécier le jeu d'une autre façon aussi.
Bah c'est cool, bah surtout après avoir fait vraiment une période très compétitive. Puis en plus, tu continues les compétitions mine de rien quand même à côté, donc
Ouais,
ça doit être assez
ouais,
complémentaire tout ça.
ouais. Clairement, ouais, c'est vraiment complémentaire.
Et tu fais un petit peu de contenu éducatif, il y a des nouveaux joueurs, on va dire, qui viennent sur ton stream pour apprendre des choses?
Ça arrive, donc ouais, comme je te disais, quand Reforged est sorti, il y en avait pas mal, maintenant un peu moins. En termes de contenu éducatif, j'en fais pas spécialement, mais j'essaie quand même. Enfin, je suis toujours à l'écoute et prêt à répondre si quelqu'un a des questions ou a besoin de pointeurs, de l'aide, ce genre de choses. Enfin, j'aime bien aider les gens, donc ça me dérange pas
Ouais,
du tout.
rester pédagogique
Voilà.
quand il y a besoin, quoi.
Tout à fait.
J'ai cru voir dans une de tes interviews que tu disais que la situation de streamer, c'était sûrement plus facile dans une situation stable qu'en étant joueur pro.
Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, en étant streamer, t'es pas dépendant des gains de tournoi, par exemple. Enfin, là, du coup, j'ai un revenu qui est quand même. Bon, je me base pas sur le revenu que je gagne en tant que streamer pour payer mon loyer, par exemple, ça suffirait pas. Je reste quand même encore assez modeste à ce niveau-là. Mais clairement, on peut voir qu'il y a des streamers qui vont. Que ça va leur permettre juste de gagner un revenu entre guillemets fixe par rapport à un joueur pro où tu sais jamais quel tournoi tu vas gagner. Alors certes, certaines équipes proposent un salaire, mais bon, sur War 3, il arrivait pas mal de fois qu'il y a eu des problèmes de salaire, etc. Et je pense que c'est arrivé aussi sur d'autres jeux. Donc t'as toujours ce petit point d'interrogation, même si je pense que les grosses équipes sont clairement plus sérieuses, par exemple comme Liquipédia ou d'autres, Team Liquid, pardon, ou d'autres. Maintenant, un streamer, voilà, t'es, bon. Encore une fois, un streamer, si jamais tu t'arrêtes, tu vas plus recevoir de revenus non plus. Mais bon, pour moi, ça reste quand même plus stable.
Ouais, plus stable parce qu'en fait, pas dépendant des performances et des résultats, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et peut-être que c'est aussi moins stressant au final. Est-ce que c'est stressant d'ailleurs de garder un gros niveau et de se dire, bah là, si je performe pas, bah c'est la merde pour moi.
Alors, c'est pas vraiment stressant à ce niveau-là. Jouer, après, c'est. En fait, quand tu joues et que tu fais des tournois, ça peut être stressant parce que effectivement, tu veux faire le plus possible et t'as pas forcément l'occasion non plus de faire des tournois tout le temps. Donc, si tu dis, ouais, si je rate ce tournoi, je sais pas quand est-ce qu'il y en aura un autre de cette envergure, en tout cas, parce qu'après, il y a des petits tournois qui peuvent arriver assez régulièrement. Alors, en tant que streamer, t'as pas trop ce stress-là. Bon, c'est toujours un peu stressant aussi parce que tu t'exposes, tu te montres, tu parles aux gens et parfois, les choses vont pas forcément bien se passer, surtout dans un jeu compétitif. Donc, si tu te streams et que tu fais que perdre, ben, déjà, perdre, c'est jamais vraiment amusant. Et en plus, ben, t'as les gens qui te regardent et qui peuvent te juger. Donc, ça peut rajouter du stress. Donc, à ce niveau-là, ça peut être stressant. Ça peut être stressant aussi parce qu'en tant que streamer, si tu fais une pause, forcément, tu vas perdre des viewers, tu vas perdre des abonnés. Les gens ils vont peut-être se dire regarder quelqu'un d'autre du coup, donc tu as toujours ce petit truc là aussi qui fait que faut que tu restes assez constant, faut écouter un programme, ce genre de choses. Donc ouais, c'est, il y a un petit peu de stress à ce niveau-là quand même aussi.
Ouais, dans les deux métiers, au final, il y a pas, il y a quand même des conditions à remplir et des efforts à faire, sinon ça peut vite tourner au vinaigre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un truc qui m'intéresse aussi à savoir, c'est, toi tu peux avoir sûrement pas mal de recul par rapport à ça, c'est, est-ce que l'âge, ça a un impact sur tes capacités à être bon en jeu?
Alors, est-ce que l'âge a un impact? Je pense que oui, d'une certaine manière. Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, ça dépend du jeu. Je pense que peut-être sur un FPS comme CSGO, ça aura peut-être plus d'impact ton âge. Et encore, je ne suis pas sûr, mais les réflexes, ça a peut-être plus d'impact sur un jeu de stratégie où ça demande quand même beaucoup de mécanique et beaucoup de rapidité. Ça reste quand même possible d'être bon même en étant âgé, parce qu'un des meilleurs joueurs au monde a, il me semble, 34 ans sur War 3, donc Moon, qui est considéré comme, on l'appelle la cinquième race, alors qu'il n'y a que quatre races, par exemple, c'est pour te dire tellement à quel point il est bon.
Généralement, quand un mec a ce genre de surnom, c'est qu'il n'est pas mauvais.
Ouais, voilà. Et donc là, ça va, c'est pas trop un problème. Par contre, admettons que je n'ai jamais joué à War 3, que j'ai 30 ans, pour rattraper le niveau, je pense que ça sera difficile à 30 ans comparé à un mec qui aurait, par exemple, 16 ans, qui a beaucoup plus de motivation et, entre guillemets, de temps libre. Voilà, ça a quand même un impact à ce niveau-là, l'âge, parce que t'as plus de responsabilités généralement quand t'es plus âgé et t'as pas forcément tant de temps à mettre dans le jeu.
C'est vrai que c'est plus difficile quand t'as déjà une vie installée, plein de choses à faire, etc. de prendre du temps pour geeker toute la soirée.
Exact.
Et toi, en tant que consommateur, du coup, est-ce que pendant toutes ces années, t'as regardé de l'e-sport?
Alors, j'ai regardé beaucoup d'e-sport, mais surtout Warcraft 3, enfin, énormément de Warcraft 3.
Quand c'est fidèle au jeu.
Ouais, et du Starcraft 2 auquel j'ai joué, j'aime pas mal aussi. Après, les autres e-sports, je regarde pas trop l'e-sport des autres jeux. Ouais.
Et c'est qui tes joueurs préférés, du coup, sur Starcraft comme sur Warcraft?
Alors sur Warcraft, mes joueurs préférés, mon joueur préféré sur Warcraft, c'est un joueur chinois qui s'appelle 120, qui est assez jeune d'ailleurs, il a, je crois, 24 ans, même si ça paraît pas si jeune, mais pour War 3, c'est jeune. Et sinon, j'aimais beaucoup regarder Stefano sur Starcraft 2. D'ailleurs, on était coéquipiers à l'époque sur War 3. Ça, j'ai toujours bien aimé le regarder parce qu'il était très très fort. Et malheureusement, un autre joueur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Life, mais qui a eu certains problèmes avec un problème de triche sur Starcraft 2 et qui a dû arrêter sa carrière.
Aïe.
Voilà. Ouais.
Coup dur.
Coup dur, ouais.
Et en termes de stream, de streaming plus général, tu regardes des choses ou pas?
Alors ouais, je regarde beaucoup de streams. Je regarde un peu pratiquement tout le monde sur Warcraft. Il y a une chaîne qui s'appelle Back to Warcraft, qui est la chaîne de référence en termes de cast. Donc ils vont couvrir la grande, grande majorité de tous les événements internationaux ou même internationaux. Donc que ça soit les grands, grands tournois avec beaucoup de cash prize qui se passent en Chine ou même des tournois qui se passeraient toutes les semaines. Et c'est la chaîne que je regarde le plus. Après, j'aime bien regarder les autres streamers avec qui j'ai l'habitude de parler ou de jouer, juste parce que c'est cool d'avoir des conversations avec d'autres gens qui partagent la même passion que toi.
C'est génial ça, de pouvoir partager sa passion, etc. Est-ce que toi, tu as déjà été tenté justement de commenter, de faire partie un petit peu de tout ça, d'essayer de passer un petit peu de l'autre côté pour continuer de partager la passion pour Warcraft 3, qui t'anime, hein, on t'entend en parler depuis le début, au-delà d'être joueur?
Alors, ça m'arrive de commenter par-ci, par-là, mais sans jamais vraiment être trop sérieux à ce niveau-là. Quand on m'a donné l'opportunité, je l'ai fait. Après, c'est quand même assez difficile parce que, enfin, il y a plusieurs types de commentateurs, évidemment. Il y a ceux qui sont vraiment à fond dans l'action et ceux qui sont plus dans l'analyse. Moi, je serais plutôt dans l'analyse. Je suis pas vraiment du genre à enchaîner les phrases aussi rapidement que certaines personnes. Mais pourquoi pas. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir, en tant que commentateur, expliquer aux gens qui regardent ce qui se passe. Et peut-être quand tu regardes forcément un jeu, tu peux voir certaines choses, mais il y a certaines choses qui vont forcément t'échapper si t'es pas familier avec le jeu. Et je trouve ça assez cool de pouvoir le montrer aux gens.
C'est qui ton commentateur préféré, du coup?
Mon commentateur préféré, je pense que pour War 3, ça serait Grubby. Et pour StarCraft 2, j'aime beaucoup Rotterdam. Et
Ok.
malheureusement, quelqu'un qui est décédé, mais InControl était aussi, je trouve, très très fort.
Et à l'échelle européenne, en ce moment, c'est Happy qui domine.
Ouais.
Pourquoi il est si fort?
Très bonne question.
Si tu le savais.
Si je le savais, j'essaierais de faire la même chose. Happy, bon, il joue depuis très longtemps à War 3. Il a joué aussi pendant une bonne période à StarCraft 2, qui, je pense, l'a aidé à devenir plus fort sur War 3. Parce que StarCraft 2 est quand même beaucoup plus axé macro-gestion, à l'instar de
Ouais.
War 3, où c'est plus micro-gestion. Où la macro-gestion, donc ce qui est, la macro-gestion, c'est plus la gestion de l'économie et produire des unités. Ça, sur Warcraft 3, ça existe, mais c'est quand même beaucoup moins important que sur StarCraft 2. Mais quand bien même, le fait d'avoir joué à StarCraft 2, je pense que ça l'a aidé à ce niveau-là. Et pourquoi maintenant il est aussi dominant sur... Je t'avoue que je sais pas. Après, quand je le regarde jouer, enfin, tu sens quand même la rapidité d'exécution. Tu sens, je pense qu'il est juste très très fort. Mais ouais, je saurais pas trop trop pourquoi.
Eh ben écoute, le jour où tu le trouveras, tu pourras peut-être
Ouais, peut-être,
rivaliser hein,
ouais.
peut-être.
J'espère.
C'est quoi les points que toi, tu as le plus à travailler en ce moment? Est-ce qu'il y a des faiblesses, des trucs où tu dis, bon là, peut-être que c'est vrai, si je m'améliorais sur ça, je pourrais être encore meilleur?
Alors, il y a toujours, ouais, des points. La micro, ça reste toujours quelque chose que tu peux améliorer, c'est-à-dire la gestion de tes unités, les reculer les unités qui sont en train de prendre des dégâts pour pas les perdre et justement avoir ton armée la plus importante possible. Ça, c'est toujours quelque chose que je peux améliorer. Après, c'est... Ouais, je pense que c'est surtout ça le point principal. Il y aurait peut-être ce qu'on appelle le decision making, c'est la prise de décision, tout simplement. Où là, dans certaines situations, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois attaquer? Est-ce que tu dois prendre une expansion, expand ou ce genre de choses? Ça, tu peux toujours l'améliorer aussi. Et je pense que c'est ces deux points principaux que je peux travailler.
Et niveau point fort, qu'est-ce que tu te donnerais comme bon point?
Point fort, bonne question. Je pense que je suis un joueur qui est quand même qui a un style de jeu assez varié. Donc encore une fois, je joue mort-vivant. Donc c'est une race qui est connue pour avoir un style bien précis, qui est efficace pratiquement tout le temps. Mais moi, j'aime bien jouer différemment. Et donc les gens ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Je pense que ça, c'est une force. Et ouais, c'est, on pourrait dire créativité, mais j'irai pas jusque-là. Je pense que c'est juste la diversité des stratégies.
C'est bien, c'est avoir un impact psychologique sur tes adversaires qui disent, attendez, qu'est-ce qui va encore me sortir
Ouais, c'est ça,
celui-là?
exactement. Ouais. C'est le but.
Non, t'as raison. Il faut sortir les sentiers battus, en plus c'est amusant et tout. Donc, le principe même d'un jeu, c'est de s'amuser. Hein.
Ouais, exactement. Et en plus, les gens aiment bien voir des choses différentes parce que quand tu joues toujours la même chose, forcément, ça peut devenir lassant à jouer. Enfin, personnellement, ça me lasse de jouer toujours la même chose. Mais les gens qui regardent aussi, ça peut les lasser de regarder toujours la même chose. Même si, en tant que joueur, bon, je suis pas un joueur professionnel, mais en tant que joueur compétitif, tu essaies quand même de jouer ce qui marche le mieux plutôt que pour faire plaisir aux gens. On va pas se mentir. Mais
Ouais.
voilà.
Ouais. Mais c'est un truc un peu original, peut permettre aussi de gagner.
Voilà,
Bon.
c'est ça. C'est le but, ouais, c'est ça.
C'est la philosophie, j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me raconter la victoire de toute ta carrière qui t'a le plus marqué?
Alors, ok. Il faut que j'y réfléchisse. La victoire
Ah, il
qui m'a
faut.
La victoire qui m'a marqué le plus. Ah, c'est une bonne question. J'ai eu pas mal de victoires. Je pense que récemment, il y a une victoire qui m'a beaucoup marqué, même si c'était juste une. En fait, c'est sur un BO3, donc c'est le meilleur de trois manches. J'avais pris qu'une seule map, mais l'année dernière, je me suis qualifié pour les WCG, les World Cyber Games en Chine, après avoir fait top 2 en Europe. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager en Chine, à Xi'an, et j'ai joué donc contre certains des meilleurs joueurs au monde. Et je rencontre le meilleur humain au monde. Et justement, je lui sors une de mes stratégies un peu créatives que pratiquement aucun mort-vivant ne joue parce qu'elle est considérée comme moins forte et simplement parce que l'autre stratégie est quand même beaucoup plus efficace. Et j'ai réussi à le battre avec cette stratégie. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez fou. C'est ça qui m'a marqué le plus, parce que j'étais vraiment comme un fou. Bon, au final, j'ai quand même perdu les deux autres manches, mais c'était un grand exploit pour moi.
Ah, mais de réussir à en mettre une, ça devait être assez stimulant, j'avoue.
Ouais.
C'était la première du BO ou c'était la deuxième?
Je crois que c'était la première du BO, ouais.
Ah ouais, t'arrives comme ça et tout, ouais. En Chine, tu fais « Salut, je suis petit français ».
C'est ça. Ouais, surtout qu'en Chine, j'étais pas du tout connu, parce que j'étais pas revenu depuis si longtemps que ça. C'était mi-2019, et puis j'avais fait aucun tournoi international à ce niveau-là. Enfin, j'avais fait des tournois en Europe, mais sans plus. Du coup, j'arrive en Chine et j'arrive à prendre une map contre un des boss de la Chine. C'était quand même assez cool.
C'était cool aussi, je pense, de rencontrer, enfin, je sais pas si t'as pu un peu échanger avec eux à cause de la barre de la langue, mais de rencontrer ces joueurs-là qui sont sur une scène en plus très active sur R3 en Chine.
Ah, c'était génial de les rencontrer. En fait, à l'époque, c'était parce que certaines de ces personnes, ils jouaient déjà à l'époque quand je commençais le jeu. Ils sont toujours là pour te dire. Et c'est quand même des gens que je regardais à jouer et que je respectais. Et d'être au final pas au même niveau entre guillemets, mais jouer dans les mêmes tournois, c'était quand même une sacrée expérience. Pouvoir discuter avec eux, aller même juste au resto avec eux, c'était quand même quelque chose que j'aurais jamais imaginé à l'époque. Et même quand j'ai repris le jeu en 2018, je me suis jamais dit bon, tiens, je vais aller en Chine pour faire un tournoi. Donc c'était quand même quelque chose de magique. Et même rencontrer tous les fans, signer des autographes, alors que au final je me considère pas comme quelqu'un de très bon ni de connu, parce qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi en Europe. Mais toute cette expérience, c'était quand même assez magique.
Chacun son moment de gloire, hein, tu sais. C'est pas parce que t'es pas le meilleur que tu peux avoir des moments de gloire, toi aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et sinon, la Chine, c'était comment? C'était pas la première fois que tu y allais, mais comment tu vis ces voyages justement, qui sont permis grâce à l'e-sport, à la compétition?
Alors, c'est pas souvent que j'ai fait ces voyages. Enfin, à l'époque, j'avais été surtout en France, en LAN, et je crois à Valence, en Espagne, pour un tournoi de StarCraft 2. Là, en 2019, par contre, c'était la première fois où vraiment j'étais payé, le voyage tout était payé. Donc, les finales en Europe, c'était en Grèce, à Athènes et donc en Chine après. Franchement, c'est quand même une sacrée expérience. Enfin, tu n'as rien à payer à tes frais, tu te déplaces, tu rencontres des gens que tu côtoies souvent sur Internet, mais que tu n'as pas forcément eu l'occasion de voir. Et donc, tout le monde avec une passion commune pour le jeu. Et en plus de ça, tu as une compétition où vraiment chacun va donner le meilleur de soi. Et pour gagner ou pas. Et franchement, je trouve ça super cool. Après la Chine, j'ai été déjà allé effectivement en tant que touriste. Okay. Et là, en tant que joueur, donc dans une ville que j'avais déjà visitée, donc j'étais pas spécialement intéressé plus que ça pour la ville, mais juste rencontrer tous ces joueurs que là pour le coup, c'est des joueurs pour la plupart asiatiques ou américains que j'avais jamais vus avant. Franchement, c'était vraiment, vraiment sympa.
Bah, génial. Et dans un autre registre, évidemment, je vais te poser l'autre question. Mm-hmm. C'est quoi la défaite qui t'a le plus marqué?
Ah, ça, je me souviens.
C'est moi. Ouais,
je me souviens assez bien parce que je pense que c'était en 2009. Je faisais une LAN qui s'appelle la Gamers Assembly, qui est la plus grosse LAN en France.
À Poitiers, ouais.
Ouais, à Poitiers, exactement. Et donc, j'étais un des favoris à l'époque parce que je commençais à me démerder en France. Et du coup, en phase de poule, je me dis que je vais jouer la première partie en aléatoire sur les parties en trois manches. Je me dis que ouais, bon, ça va, je suis confiant. Au pire, après, je joue ma race principale et je vais gagner. Donc, ça se passe bien sur les deux premiers matchs. Enfin, je perds la première manche, évidemment, parce que je suis nul quand je joue pas ma race principale. Et du coup, après, je gagne les deux matchs 2-1. Et le troisième match, je décide d'utiliser le matériel qu'un des sponsors nous avait donné. Et ça s'est pas bien passé du tout avec ce matériel, je les ai pas habitués. Et je perds le dernier match contre un mec assez fort, TRQR, donc Tristan, qui était un humain assez fort à l'époque, mais je partais quand même confiant et du coup je perds 2-0. Et il s'avère que au niveau des, je crois que j'avais le même score avec quelqu'un d'autre, mais au niveau des maps, vu que j'en avais perdu deux en jouant aléatoire, je passe pas.
Et donc,
premier jour, donc pour une LAN enfin c'était celle qu'on attendait le plus une fois par an, je suis un des favoris et là je perds, j'étais carrément déprimé, je l'ai très mal vécu sur le coup, je voulais repartir à Paris direct, je crois que je suis resté quand même, mais je l'ai très mal pris, mais quand bien même ça a été une bonne leçon parce que depuis j'ai arrêté de jouer aléatoire quand ça avait de l'importance.
Ouais. Et bah ouais, au moins, c'est un exemple de moment voilà. Où tu apprends tes erreurs. Et...
Exact.
Ouais. Bon, ça t'a peut-être un peu gâché le week-end, mais ça m'a pris des trucs. Hein.
C'est ça, ça m'a pris des trucs, donc c'est pas si mal au final.
Ouais. Est-ce que t'as un message, si tu pouvais parler à Blizzard et leur donner un message, tu leur dirais quoi aujourd'hui ?
Je leur dirais que c'est pas grave de prendre du temps pour faire des patchs, etc. Ce qui est important, c'est de communiquer avec la communauté, leur dire où ça en est, ou s'ils ont des problèmes, etc. Enfin, la communauté, je pense qu'elle est très compréhensive. S'il se passe des problèmes, ils vont comprendre. Le souci étant que Blizzard ne communique pas du tout, et c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, doivent travailler.
Ok, voilà. Bah écoute, j'espère que ça sera entendu.
J'espère aussi.
Je propose de passer à la dernière séquence de ce podcast. Ça s'appelle le clutch. C'est simple, je te propose deux propositions. Tu choisis entre l'une d'entre elles.
Ok.
La première, facile normalement, StarCraft 2 ou Warcraft 3 ?
Warcraft 3, ça va.
Tout simplement.
Ouais.
Numéro 2, l'e-sport en 2006 ou l'e-sport en 2020 ?
2020.
Pourquoi ?
Parce que à l'époque, en 2006, c'était quand même beaucoup plus difficile de regarder tout ce qui était e-sport. Il n'y avait pas tout ce qui était stream, etc. Et donc, ça restait quelque chose d'un peu fermé, un peu moins accessible que maintenant, où vraiment, tu peux plus t'épanouir en tant que joueur et même en tant que viewer. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt d'un point de vue global. Donc, ouais.
Très bien. Tu me parlais justement de tes classes aléatoires. Je vais te proposer un choix entre deux classes. Hein, elfe de la nuit ou humain ?
Humain.
J'aime tant qu'à faire.
Trop... Ouais, je suis nul avec les deux, mais je préfère quand même humain.
Est-ce que tu préfères développer ou jouer ?
Je dirais jouer quand même. J'aime bien développer, mais je développe que pour le travail, je développe pas en dehors de mes heures de taf. Et jouer, quand même, bah, du coup, je le fais en dehors de mes heures de taf, et c'est quelque chose qui me passionne un peu plus.
Très bien, c'est bien. Quand on essaie d'être un peu joueur compétitif, c'est bien de préférer comme jouer.
Ouais, je suis d'accord.
Et puis au final, tu appliques quasiment les mêmes process entre le travail et jouer. Quand tu veux performer, bah, c'est du tryhard. Hein,
C'est ça, exactement.
Mais plus marrant.
Plus marrant, ouais.
Est-ce que tu préfères une victoire franche ou une victoire serrée ?
Je préfère une victoire serrée, je dirais. Ouais. T'as plus de satisfaction à la victoire.
Moins l'impression que ton adversaire a été moins fort.
Moins fort ou qu'il a juste eu un mauvais jour, un truc comme ça. Alors que si c'est serré, tu sens vraiment que tu t'es battu, tu t'es donné pour l'avoir. Et une fois que t'as gagné, t'es content, t'as gagné.
Bah, génial. Bah, écoute, Saïd, merci beaucoup. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
De la réussite, je pense. Pour moi, ça se passe globalement assez bien, sur Warcraft 3 en tout cas, que ce soit mon stream. Peut-être de devenir partenaire un jour si Twitch décide à me répondre à mes demandes à passer partenaire. ça serait assez cool, mais bon, je doute qu'ils écoutent ce podcast, après qui sait. C'est juste de la réussite et j'espère juste que War 3 va continuer à dans son élan, continuer à devenir peut-être un peu plus populaire sans pour autant être le jeu le plus populaire. Ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais on va continuer comme ça.
Eh ben génial. J'espère que Blizzard entendra tes appels et qu'ils vont continuer à développer et à mettre en avant ce jeu qu'il mérite, parce que c'est quand même un jeu historique, un jeu qui a marqué pas mal de gens et qui a permis de développer aussi d'autres jeux à partir de celui-là. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de faire des mods pour avoir un ladder pas officiel, mais c'est un peu ça finalement l'essence même de Warcraft 3, c'est que c'est juste le genre de jeu vraiment des années 2000 où tu pouvais toi-même modder, etc., modifier, faire tes créations et de là... sont nés plusieurs modes de jeu, comme notamment les MOBA. Donc bon, voilà, finalement, retour aux sources. Hein.
Ouais, c'est ça.
Voilà, excellent. Bah écoutez, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré pouvoir en apprendre plus sur ce monde qui est certes moins médiatisé, mais qui, tu vois, a son propre championnat national, hein, comme CSGO, comme Hearthstone, donc qui mérite aussi d'avoir un peu de lumière au quotidien. Merci Saïd, encore une fois, bon courage pour la suite. J'invite tous les auditeurs à se rendre sur ton stream et à venir suivre tes aventures et à s'abonner à tes réseaux sociaux. Et puis, merci beaucoup.
Merci à toi, salut.
Salut.
Voilà, si ce sixième épisode de Pré-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus le podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site eslcn.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch d'ESL France. C'était Balter pour vous présenter Pré-Shot. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.